Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone, comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle, comme toutes les semaines, la une à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une avec la bataille des retraites qui domine plus que jamais l'actualité. Et dans ce numéro, vous mettez en lumière des pistes pour une réforme de progrès du système de retraite.
Oui, tout à fait. Donc c'est le gros dossier encore de la Marseillaise Hebdo de ce vendredi.
Oui.
On sera quasiment à la veille de la deuxième grande journée de mobilisation qui est donc programmée pour le 31 janvier, le mardi 31 janvier partout en France et notamment dans l'Hérault où plusieurs rassemblements et manifestations sont prévus. On en donnera aussi le détail dans le journal. Et là, évidemment, nous sommes attachés aux contre-propositions. Puisque nous avons donc l'exécutif avec un gouvernement qui assène que le recul de l'âge du départ à la retraite doit être avancé de 62 à 64 ans pour, entre guillemets, sauver le système.
Mmh.
Or, on s'aperçoit évidemment que l'exécutif ignore ou refuse d'autres pistes pour assurer la pérennité et le développement de notre système par répartition.
Oui.
Et nous faisons un peu la liste, si on peut dire, de quelques propositions complètement alternatives en six points forts dans le journal de vendredi.
Mmh. On en avait parlé il y a quelques semaines, le collectif de défense de la maternité de Ganges se mobilise à nouveau pour sauver l'établissement.
Oui, tout à fait. Alors, ils organisent une réunion publique le 7 février à la mairie de Ganges. Alors, pourquoi ? Parce que depuis la suspension de la maternité, puisqu'en fait, elle n'a pas été définitivement fermée, selon l'Agence régionale de santé, elle a été juste suspendue. On revient sur les causes de cette suspension, à savoir qu'il n'y a pas assez de personnel, mais c'est aussi un groupe privé qui dirige la clinique Saint-Louis à laquelle est rattachée cette maternité.
Oui.
Ça pose des gros, gros problèmes, bien évidemment, puisque Ganges se situe à peu près entre 1h30 et 2h de route des autres maternités, à savoir du côté de Nîmes ou de Montpellier.
Oui.
Et pour les familles, c'est très compliqué. Il devait y avoir un centre périnatal qui devait ouvrir ses portes pour assurer un suivi des femmes.
Oui.
Ce centre périnatal n'est toujours pas ouvert. Et il y a quelque part un double discours parce que certains disent qu'il est ouvert, mais en fait, il n'est pas ouvert.
D'accord.
Donc nous avons le maire de Mandagou qui est très impliqué, Emmanuel Grieux, qui s'exprime dans nos colonnes sur ce dossier et qui pose plus largement la question de comment répondre à ce qu'on appelle les déserts médicaux.
Eh oui. Allez, on continue avec le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales Sud-Occitanie qui organise un colloque sur la prise en charge des hommes violents le 30 janvier prochain.
Oui, alors ça va se passer à Montpellier. C'est un colloque, bien évidemment, qui va réunir des spécialistes des violences conjugales et avec cet aspect, ce volet important qui est comment on prend en charge les auteurs.
Oui.
Les organisateurs de ce colloque nous expliquent que ça participe bien évidemment de la protection des femmes aussi, hein, la protection des agresseurs. Hein.
Oui.
Donc il y a notamment des spécialistes qui travaillent notamment au Canada, où ils sont beaucoup plus en avance que la France sur ces questions de prise en charge.
Ouais.
En charge, il faut savoir que sur le seul territoire de l'Occitanie, ce centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, qui coordonne les autres, tout un réseau, en 2022, je crois que c'est 2022 ou 2000, oui, ils ont pris en charge à peu près 1200. Non, c'était en 2021, pardon. 1200 personnes, 1200 auteurs de violences qui ont été orientés vers ce centre.
Mmh.
Essentiellement par la justice. Le centre travaille aussi à faire en sorte que les hommes violents aient une prise de conscience et poussent aussi les portes de ces associations. Mmh. Et donc, on explique les dispositifs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'ouverture au public de ce colloque en début de soirée,
oui.
Où les gens vont pouvoir venir poser leurs questions, écouter aussi des spécialistes et voir des films et des courts-métrages pour sensibiliser à ce volet important de la lutte contre les violences conjugales.
Mmh. Allez, pour finir, un petit peu plus de légèreté avec la culture et notamment deux événements du côté du Gard. Il y aura le festival de la biographie, donc ça sera du 27 au 29 janvier, et la nouvelle saison de la Maison Théâtre des Littératures à voix haute.
Oui, alors traditionnellement, il y a le festival de la biographie à Nîmes, hein,
oui.
Il est connu, hein, il a pour thème cette année nos souvenirs communs, ça c'est très intéressant.
Oui.
Alors évidemment, il y a des grandes têtes d'affiche, hein, on va pas tous les citer, mais notamment on peut mettre un petit coup de projecteur sur Sabil Gouzoub, qui est l'auteur de Beyrouth sur scène, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens et qui sera présent.
Mmh.
Et autre nouveauté aussi, c'est l'ouverture sur les quartiers nîmois, les quartiers populaires de Nîmes, avec une sorte de off, hein, de ce festival de la biographie, puisque il y a la mise en place qui a été de ce off. C'est l'association que l'on connaît bien qui s'appelle Mille Couleurs, qui agit vraiment de façon très active dans les quartiers.
Oui.
Il y a beaucoup d'initiatives qui sont destinées à réveiller des souvenirs collectifs des citoyens de Nîmes, hein, qui habitent Pissevin, le Mas de Mingue ou Richelieu.
Mmh.
Donc c'était cette ouverture sur Nîmes. Nîmes est pas simplement son centre et pas simplement un festival un peu, on va dire, entre guillemets, pas élitiste, mais qui reste entre les murs, d'ouvrir aussi sur les quartiers. Ça,
d'accord,
c'est très intéressant.
Mmh.
Et évidemment, toujours à Nîmes, il y a donc la Maison Théâtre des Littératures à voix haute qui lance le 2 février sa saison qui va se poursuivre jusqu'au 10 juin. Et là, c'est très intéressant parce que, comme son nom l'indique, c'est de faire découvrir des auteurs et des autrices et de proposer à des comédiens de lire à voix haute les œuvres littéraires.
D'accord.
Donc voilà, il va y avoir toute une série d'invités. Ça commence le 2 février sous le signe de la Renaissance, puisque ce sont des textes de la poétesse lyonnaise Louise Labbé, qui a vécu au XVIe siècle et qui fait partie des grandes poétesses françaises, dont on va pouvoir entendre de façon très vivante les vers.
Allez Françoise, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec vous.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et donc on commence cette une à la une de la Marseillaise avec la bataille des retraites qui domine plus que jamais l'actualité. Et dans ce numéro, la Marseillaise met en lumière des pistes pour une réforme de progrès du système de retraite. Donc ça veut dire qu'il y a des pistes, d'autres pistes.
Oui, oui, tout à fait. Alors on sait que le président de la République Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne, elle, que le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation à 43 annuités, hein, pour une retraite complète, sont indispensables pour sauver le système de retraite.
Alors que sur l'ancien quinquennat, Emmanuel Macron n'était pas pour une plus grande durée de cotisation.
On peut reprendre les propos qu'il tenait en 2019, donc ce n'est pas du tout très vieux, où il dénonçait la mesure d'âge en disant que ce n'était pas la solution.
Ouais.
Alors, l'exécutif, évidemment, ignore là, quand il dit que la mesure d'âge aujourd'hui est indispensable, il ignore ou il refuse d'autres pistes comme la hausse des cotisations, salariales et patronales. Alors pourquoi, on peut se demander pourquoi. Alors notre analyse, c'est que Ils ne veulent pas réhabiliter la valeur travail, contrairement à ce qu'ils disent, hein, puisqu'ils sont quand même dans un plus idéologique néolibéral, hein, capitaliste. Hein, et donc, ils sont aussi obsédés par la baisse du coût du travail.
Oui.
Donc, mais contrairement à cette vision des choses et à ce choix politique, hein, puisque c'est un choix politique, il y a de nombreux économistes et tous les syndicats qui prônent notamment l'augmentation des cotisations pour alimenter les caisses publiques de retraite, c'est pour assurer leur financement et le niveau des pensions.
Oui.
Alors par exemple, si on prend le syndicat CGT, lui il propose une hausse de 0,8 points. Donc ça veut dire pour sur la pour concrètement mensuellement, c'est 8,25 euros par mois de cotisation salariale et autant pour les cotisations patronales. Ça voudrait dire que par ce biais-là, on pourrait récolter pour les caisses de retraite plusieurs milliards d'euros.
Ouais.
On a le responsable de la CFTC qui fait partie de l'intersyndicale, hein, puisqu'il faut dire que les huit grands syndicats représentatifs des salariés sont unis dans une intersyndicale contre cette réforme dont le cœur est la mesure d'âge. Hein.
Ouais.
Donc Thierry Chabanier, donc le responsable de la CFTC, lui, il table sur 3 ou 4 euros d'augmentation par mois et de cotisations salariales et patronales, ce qui rapporterait 6 milliards d'euros.
Ouais.
C'est ce qu'il a déclaré récemment. Il y a aussi une autre piste que nous mettons en avant, c'est l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes.
Oui.
Donc ça, c'est aussi une piste importante, puisque on rappelle évidemment que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est aujourd'hui à peu près de 28%, évidemment au détriment des femmes, pour poste égal, hein, à poste égal, évidemment. Donc cette égalité salariale, si elle devient effective, pareil, elle rapporterait dans les 6 milliards d'euros.
Oui.
Il faut rappeler que les femmes sont c'est celles qui perçoivent les plus petites pensions, puisqu'elles sont inférieures de 30 à 40% à celles des hommes. Et donc ça permettrait aussi à la fois d'augmenter les salaires des femmes en activité, mais aussi d'assurer des retraites de qualité, enfin en tout cas viables pour les femmes une fois qu'elles sont à la retraite.
Oui.
Au contraire, la réforme Macron, telle qu'elle est conçue, elle pénalise les femmes.
Et oui, qui ont des carrières hachées, notamment avec la
exactement.
Maternité.
Et puis, on a aussi cette... nous, on dit que c'est une fable, on le démontre, hein, que la promesse de la retraite minimale à 1200 euros brut, c'est justement, c'est un mirage, parce qu'il faut avoir une carrière complète, il faut avoir travaillé toute sa vie avec un salaire qui ne dépasse pas le SMIC.
Oui.
Donc, au final, il y aura très peu d'élus.
Oui.
Parmi les autres pistes aussi, on en a pris 6, hein, il pourrait y en avoir plus. Hein. Il y a aussi la mise en place des 32 heures hebdomadaires. Alors, on peut pousser des grands cris, mais il faut rappeler que d'un point de vue dans l'histoire sociale et du progrès social et de la bataille des travailleurs, la réduction du temps de travail, ça fait partie des grandes conquêtes hein, sociales. Hein. Il y a eu les 40 heures. Les 40 heures, c'est les années 80. Hein, les 35 heures, alors la semaine de 40 heures, c'est les années 80, il y avait même le Front Populaire qui prenait les 40 heures. On a eu les 35 heures et les 32 heures hebdomadaires, c'est l'horizon à conquérir, hein, d'un nouveau progrès pour les travailleurs. Alors, il y a un calcul qui est simple, hein. Les 32 heures aujourd'hui, si elles étaient mises en œuvre, il y aurait un vivier de à peu près 1,7 million d'emplois qui pourraient être créés dans le privé grâce aux 32 heures. Et donc, évidemment, création d'emplois, ça veut dire
cotisation
supplémentaire de l'ordre d'un peu plus de 13 milliards.
Ouais.
Et donc, ça, c'est pour le privé. Dans le public, si on fait le choix du service public, le choix politique du service public, en créant, par exemple, des postes, pour le seul secteur hospitalier public, il manque à peu près 400 000 postes. Hein. Il y a 5 milliards de cotisations en plus si les postes sont créés.
Eh oui.
Alors, autre piste aussi, mais ça c'est des choix politiques aussi, c'est l'augmentation des salaires. On sait que si on augmente les salaires, ce que disent les syndicats dans une formule qui est assez efficace, c'est augmenter les salaires, pas l'âge de départ. Donc 5% de hausse dans le privé, c'est l'équivalent de 9 milliards pour les retraites.
D'accord.
Si les cotisations suivent, bien évidemment, hein, si on ne baisse pas, comme ils appellent le coût du travail, en supprimant les cotisations. Et justement, c'est la cinquième piste que nous mettons en avant, c'est qu'il faut arrêter de subventionner le patronat. Puisque les aides publiques aux entreprises, elles sont versées sans contrepartie en termes de création d'emplois et d'investissement dans l'outil de production. Elles font perdre chaque année, 157 milliards d'euros.
Oui, et par la même occasion, les patrons reversent les dividendes. On pourrait parler, par exemple, de Sanofi à ses actionnaires.
Exactement, puisque ce n'est pas reversé dans l'outil de production ou dans les salaires. C'est souvent pour rémunérer les actionnaires. Et donc, cet argent-là, il peut être en partie grandement mobilisé pour les retraites. C'est une piste importante. Et évidemment, sixième piste que nous mettons en avant, c'est le partage de la richesse. On a une analyse de l'ONG Oxfam, qui rappelle que les baisses d'impôts octroyées aux plus riches, hein, on parle de l'impôt sur la fortune, hein, on peut parler aussi de la flat tax sur le capital qui a été baissée aussi, ça prive chaque année l'État de 16 milliards d'euros de recettes par an. Et en 2020, ça s'est encore aggravé, ça c'est des choix qui ont été faits en 2017, lors du premier quinquennat. En 2020, la baisse des impôts de production, depuis l'année 2020, Oxfam a calculé que ça prive le budget de l'État de 15 milliards d'euros par an. Donc l'argent est bien là pour assurer une retraite décente et digne pour tous, et donc c'est bien une question de choix politique. Alors, nous complétons ce dossier avec des témoignages de ceux qui sont concernés, les salariés. Je pourrais citer, juste pour pas être plus longue sur ça, le témoignage de Michael, qui est un éboueur à Montpellier, donc il travaille à la propreté à Montpellier pour l'entreprise Nicolin, qui était en grève à 100%, c'est quand même assez notable, hein. Ça fait 20 ans, il a 40 ans aujourd'hui, 42 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est éboueur, et il dit déjà qu'aujourd'hui, physiquement, ça se ressent, et continuer pendant encore 20 ans, pour lui, c'est impossible. Donc il décrit ses conditions de travail, et donc on voit bien que 20 ans de plus, c'est 62 ans, et là, ça serait 22 ans de plus, 64 ans, c'est quasiment insoutenable pour ces travailleurs. Voilà, donc on a d'autres témoignages, notamment celui d'un pompier aussi. Alors même si les pompiers, ils ont
un
régime spécial, donc qui va être a priori supprimé. Alors il faut savoir que le régime spécial, c'est pas un cadeau, c'est-à-dire qu'ils ils cotisent plus pendant toute la carrière, ils peuvent bénéficier, de 5 ans de report, mais ils surcotisent en raison d'une année pour 5 ans. Donc, ils surcotisent pour avoir aujourd'hui leur retraite. Ça ne leur va pas du tout, cette réforme. Quand ils entendent le gouvernement dire que les métiers comme pompiers, policiers vont être préservés de la mesure d'âge, ce n'est pas la vérité complète. Donc voilà, donc nous avons encore ce dossier, bien évidemment en donnant aussi les lieux et les heures des rassemblements pour les manifestations, sachant que le 31 janvier, c'est une étape importante. La veille, le texte du gouvernement, le texte de loi sera arrivé à l'Assemblée nationale. Il y a aussi là quelque chose qu'on met en avant, c'est que le gouvernement a choisi de faire un budget rectificatif de la sécurité sociale et il a choisi aussi d'activer un article de la Constitution pour accélérer les débats. Et en fait, c'est pour empêcher le vrai véritable débat parlementaire, c'est l'article 47.1 de la Constitution qui réduit à 50 jours entre l'Assemblée nationale et le Sénat le temps du débat. Donc ce n'est aussi pas entendable pour les oppositions et pour et pour le mouvement social qui, lui, est vent debout contre cette réforme.
Et on peut dire, avec tout ce que vous venez de dire, Françoise, que, comme vous disiez, l'argent est là, et une dernière piste, ne serait-ce qu'aller chercher l'évasion fiscale légale pour financer aussi cette...
Oui, on a fait le tour en 6 points, mais il y a d'autres sources aussi de financement. On voit que ça relève vraiment d'un choix politique.
Absolument. Allez, toujours un sujet aussi grave, le collectif de défense de la maternité de Ganges se mobilise à nouveau pour sauver l'établissement.
Oui, alors le collectif de défense de la maternité de Ganges donc organise le 7 février une réunion publique à la mairie de Ganges.
Oui.
Donc c'est le collectif pour le maintien de la maternité, parce qu'il faut savoir que l'activité de cette maternité a été suspendue à la fin de l'année dernière, hein, c'était le 25 novembre,
oui.
Par décision de l'Agence régionale de la santé, l'ARS. Hein. Cette maternité, elle appartient à un groupe privé qui s'appelle Cap Santé.
Mm-hmm.
Alors pourquoi l'activité de la maternité est suspendue? Eh bien, par manque de professionnels. Hein,
oui.
Notamment les gynécologues qui ne sont pas recrutés.
Oui.
Il faut savoir que Ganges assurait moins de 300 accouchements par an. C'est le seuil pour une fermeture, hein. Mais elle a fait l'objet de plusieurs dérogations, car en fait, il n'y a pas d'autre lieu à proximité pour accoucher, pour les femmes.
Hein. Oui.
Il faut savoir que c'est à 1h30, 2h de Nîmes ou de Montpellier, selon où l'on vit autour de ce bassin de vie qui est rural et un peu montagneux.
Mmh.
Donc aujourd'hui, les femmes qui vivent dans ce territoire, elles sont obligées pour certaines de faire 2 heures de route pour aller mettre au monde leur enfant.
Mmh.
Alors, il y a une forte inquiétude, hein, selon le maire de Mandagou, Emmanuel Grieux, car le centre périnatal de proximité promis par l'ARS le 25 novembre, hein, n'est toujours pas ouvert. Hein.
D'accord.
Donc le but de cette réunion publique du 7 février, c'est de vouloir être vraiment informé des moyens mis en œuvre pour assurer la réouverture de cette maternité, et donc le groupe privé Cap Santé participe à cette réunion à laquelle l'ARS est aussi fortement invitée à venir s'expliquer.
Oui.
Le ministre de la Santé, François Braun, a répondu à un courrier envoyé par le maire de Mandagou, Emmanuel Grieux, en lui confirmant qu'il s'agit bien d'une suspension et pas d'une fermeture.
Mm-hmm.
Mais en attendant, il n'y a pas d'autre solution et ça n'avance pas.
Il n'y a pas de calendrier, en fait.
Il n'y a pas de calendrier, c'est complètement, il n'y a... C'est plus que flou.
D'accord.
Et il y a les élus locaux, évidemment, les habitants qui se mobilisent, hein, dans ce collectif. Il y a aussi les députés de la NUPES, Michel Talat, et le député de l'Hérault, Sébastien Rome, hein, qui sont de la France Insoumise. Hein. Alors eux, ils défendent le retour de la maternité dans le giron public.
D'accord.
C'est aussi une vraie question de société. Hein. Le collectif pour le maintien de la maternité, il veut aussi fédérer d'autres collectifs qui luttent contre la désertification médicale.
Mmh.
Et comme nous le raconte le maire, hein, dans nos territoires ruraux, on ne mesure pas les dangers qu'on fait courir aux citoyens.
Oui.
In fine, bon ben voilà, on comprend que ce collectif, il est prêt à mener la bataille jusqu'au bout, et aussi longue soit-elle,
mm-hmm.
puisqu'il y a quand même, on va dire, des vies aussi qui sont en jeu. C'est la question de la santé.
Absolument. Et puis on peut dire que c'est un peu les vases communicants, c'est-à-dire que les personnes qui ne pourront pas accoucher à cette maternité viendront engorger encore plus Montpellier ou Nîmes, qui sont déjà bien engorgés.
Disons que c'est la question des complètement des moyens. On sait qu'on manque de personnel médical.
Mmh.
Qu'il y a plusieurs causes à cette crise, hein, mais ça va durer encore pas mal de temps, et donc il faut des mesures vigoureuses.
Oui.
Donc c'est pour ça que les citoyens donnent de la voix pour avoir des services publics, en fait, mmh. de qualité.
Et oui. Le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales Sud-Occitanie organise un colloque sur la prise en charge des hommes violents. C'est le 30 janvier prochain.
Oui, alors c'est on met en avant cette actualité-là, puisque en fait, c'est un colloque important. Hein. Il va donc réunir des spécialistes des violences conjugales et notamment ceux qui s'occupent de la prise en charge des auteurs de ces violences.
Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, en fait.
Voilà. Donc ce centre de prise en charge des auteurs des violences conjugales Sud-Occitanie, en fait, il a été mis en place suite au Grenelle sur les violences conjugales qui s'était tenu en septembre 2019. Donc, ça fait partie des décisions de ce Grenelle. On peut en critiquer un certain nombre, notamment sur le volet financier, hein, où les associations réclament toujours le fameux milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui ont été décidées, dont la création de ces centres de prise en charge des auteurs. Et il y a sur le plan national, il y a 30 structures qui existent.
Oui.
Donc, il y a ce centre, le CPCA Sud-Occitanie. Et donc, il est porté par une association, hein, qui est l'association d'entraide et de reclassement social.
Oui.
Et sa responsable, Véronique Thirode, qui est sa directrice générale, elle nous explique bien que la question de la prise en charge des auteurs ne peut pas se départir de la question de la protection des victimes.
Et, oui,
et donc, on prend en charge les auteurs pour mieux protéger les victimes.
Et puis pour éviter la récidive, peut-être aussi.
Exactement. Et donc, le maillage, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aussi ce qu'on fait dans cet article, le maillage du territoire d'Occitanie. Il y a 5 départements qui sont concernés.
Oui.
Donc, il y a des antennes dans l'Hérault. Il y a une antenne à La Clède dans le Gard, il y en a une dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales et en Lozère.
D'accord.
Alors c'est des associations qui, c'est un maillage avec des associations qui existaient déjà, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait maintenant ce centre régional, ça permet de mieux coordonner des choses. Hein.
Ça
joue aussi un rôle d'orientation. Il y a aussi un des défis, c'est que les auteurs eux-mêmes puissent les contacter.
Oui.
Voilà. Mais il faut savoir que l'immense majorité, il y a 1200 personnes qui ont été orientées vers ce centre de prise en charge dans notre région. Ils ont été orientés par les services judiciaires.
Hein. Oui.
Et donc ces 1200 personnes, c'est quand même important.
Et c'est que la partie visible de l'iceberg, j'imagine, en plus.
Exactement. Mais il y en a certaines qui font la démarche de leurs propres initiatives.
Mmh.
Et une des missions de cette structure, voilà, c'est de travailler à ce qu'il y ait plus de volontarisme et de dire aux hommes violents qu'ils peuvent trouver eux aussi de l'aide. Hein.
Mmh.
Donc, comment ça se passe, la prise en charge des personnes auteurs de violences? Alors, il y a des dispositifs, c'est des groupes de parole, des entretiens à visée thérapeutique, hein, mais il y a des stages de responsabilisation, et il y a aussi des ateliers préventifs, hein, pour gérer la colère, l'émotion. Donc, bien évidemment, ça ne se substitue pas aux décisions de justice.
Oui, hein. Oui, oui.
Mais la justice, si elle peut condamner et punir, elle oriente aussi pour que, justement, il n'y ait pas une récidive ou une récurrence de ces violences.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est qu'évidemment, il va rassembler des spécialistes, hein, beaucoup de professionnels, hein, mais il va aussi être ouvert sur le grand public.
D'accord.
Puisque lundi 30 janvier, à partir de 19h30 hein, jusqu'à 21h, le grand public, il est invité à venir débattre sur ces questions de prise en charge des auteurs de violences.
Mmh.
Et donc, comme base de discussion, il y aura la projection de courts-métrages notamment un micro-trottoir qui était réalisé par l'INA en 1975,
oui.
Visiblement assez symptomatique de la mentalité de l'époque.
Hein.
Il y a aussi concrètement des vidéos sur les actions menées auprès des auteurs de ces violences. Hein.
Mm-hmm.
Et il y a un court-métrage qui s'appelle Tom et Lena, qui, de Johanna Bédo, qui va être aussi diffusé. L'entrée est libre.
Mmh.
Ça se déroule au 27 boulevard Sarail.
Oui.
Je crois que c'est la salle Rabelais, si je ne me trompe pas.
Oui, Rabelais.
Voilà. On donne toutes les indications pratiques dans le journal ce vendredi. Et évidemment, avec l'article qui explique le sens des actions de ce centre,
mmh.
qui a pris comme initiative de faire ce colloque, où il fait intervenir notamment des spécialistes qui viennent du Canada, où là-bas, il y a une avance par rapport aux pratiques ici en France.
Mmh. Et on espère que cet article motivera beaucoup de lecteurs à se rendre au centre Rabelais pour écouter ce colloque.
Oui, tout à fait.
Allez, un peu de légèreté, comme je le dis toujours, avec de la culture. Deux événements du côté du Gard. On commence par le Festival de la biographie du 27 au 29 janvier prochain. C'est à Nîmes.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un rendez-vous maintenant qui est bien, bien installé dans la capitale gardoise. C'est le Festival de la biographie.
Mmh.
Donc, il va commencer le 27 janvier jusqu'au 29 janvier. Donc, c'est quasiment tout le grand week-end. Hein. Donc, cette année, il est organisé par la ville de Nîmes. Hein. Le thème, c'est nos souvenirs communs.
Donc,
voilà, c'est la thématique globale. Alors, on interroge Sophie Roule, qui est l'adjointe à la culture de la ville de Nîmes,
oui.
qui nous explique que nous avons évidemment tous des souvenirs communs, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, lors desquels on se souvient où l'on était précisément.
Oui.
Ça peut être, côté festif, joyeux, la Coupe du Monde 98,
oui.
ou alors beaucoup plus dramatique,
oui, les attentats,
que ce soit le 11 septembre 2015,
oui.
2001, ou en 2015, les attentats contre Charlie Hebdo.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment ça qui est mis en avant, le souvenir commun. Alors bien évidemment, comme chaque année, il y a toujours beaucoup de succès parce qu'il y a des têtes d'affiche, hein, où le public aime bien rencontrer pour de vrai les stars. Hein. On peut citer Francis Huster, l'acteur,
mm-hmm.
la journaliste Mireille Dumas, Jean-François Kahn ou Mathias Malzieu.
Mm-hmm.
Ce qu'on met en avant, nous, c'est Sabil Kouzoub, qui est le lauréat du prix Goncourt des lycéens 2022,
mmh.
Pour son livre « Beyrouth sur scène », un livre qui raconte une famille qui est en exil, hein, originaire du Liban et qui s'installe à Paris.
Oui.
Donc, il va être présent pour dédicacer son livre et surtout rencontrer ses lecteurs. Ce qui est aussi notable et qu'on met en avant dans cet article, c'est que pour la première fois, le Festival de la biographie propose un off, on peut dire enfin, c'est-à-dire qui va aller aussi s'installer dans les quartiers populaires de la ville.
Hein. Ouais.
Donc c'est une proposition nouvelle. Hein. C'est la mise en place et la mise en musique, hein, de ce off a été confiée à une association très active et qui fait des choses formidables dans les quartiers, qui est l'association Mille Couleurs.
Mmh.
Donc il y a beaucoup d'initiatives dont le but était de réveiller évidemment les souvenirs collectifs des citoyens dans ces quartiers, les quartiers Pissevin, Dumas de Mingue, Richelieu,
mmh.
Donc qui sont souvent marginalisés dans des initiatives culturelles. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment positif de le souligner. Le Festival de la biographie pousse, fait un peu tomber les murs et pas simplement un plateau de têtes connues,
oui.
mais va faire œuvre d'éducation aussi populaire dans les quartiers.
Mmh.
Et c'est à souligner.
Et oui, absolument. Et on reste toujours à Nîmes pour finir, Françoise, avec la nouvelle saison de la Maison Théâtre des Littératures à Haute-Voix, avec le 2 février, une soirée dédiée à Louise Labbé.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, la Maison Théâtre des Littératures à Voix Haute Elle est à l'initiative donc d'une grande saison, c'est la 17e saison. Mmh. Et donc c'est le metteur en scène gardois Denis Lannoy, qui est aussi un de nos chroniqueurs fidèles de la Marseillaise Hebdo, mmh. Qui se consacre évidemment à l'animation de la Maison Théâtre et qui nous a concocté un beau programme qui commence le jeudi 2 février jusqu'au 10 juin.
D'accord.
Et là, c'est de la littérature à voix haute, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que on choisit des auteurs, des poètes, des autrices plus ou moins connus,
oui.
Et des comédiens ou même pas des comédiens, les auteurs aussi lisent à voix haute cette prose ou ces poèmes lors de soirées qui commencent en général à 19h.
Mmh.
La soirée est vraiment accessible, c'est 10€ la soirée. Et le 2 février, on va avoir une plongée, dans la poésie de la Renaissance avec des textes de Louise Labbé.
Ouais.
Louise Labbé, qui était une poétesse donc de la Renaissance, originaire de Lyon, une Lyonnaise. Elle a très peu écrit. On connaît d'elle 662 vers uniquement,
ouais.
Mais elle fait partie des grandes figures de la poésie française de la Renaissance. Donc ça, c'est le côté, on va dire, très, très historique. Mais on va avoir aussi une soirée en avril qui est consacrée à Violette Le Duc.
Oui.
Violette Le Duc, qui était aussi une femme forte, on va dire, hein, et donc qui est née au début du XXe siècle et qui est décédée en 1972. Et là, c'est la comédienne Emma Morin,
oui.
Qui va lire ses textes. On aura aussi, pendant tout le programme, on va donner toutes les références. Hein, Robert Laffont, mmh. Évidemment Arthur Rimbaud,
oui.
On aura des contemporains comme Christophe Seberg, et on a eu un gros temps fort, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il va y avoir le printemps des poètes du 23 au 25 mars,
oui.
Et là, on a la Maison Théâtre des Littératures à Vaud, qui est complètement impliquée, notamment dans les établissements scolaires, pour
oui.
Faire vivre la poésie pendant ce printemps des poètes. Alors, c'est 26 rue de la République,
oui.
Ça commence le 2 février, tout le programme est retrouvé en ligne, on donne toutes les références, le numéro de téléphone, et on peut aller découvrir la littérature à voix haute, grâce donc à la Maison Théâtre mmh. de Nîmes.
Et tout ça, j'allais dire, voilà, vous l'avez dit, c'est du côté de Nîmes. Voilà, chers auditeurs, vous avez les gros titres de la Marseillaise apparaître ce vendredi, mais vous en retrouverez bien plus en vous rendant oui. dans un bon kiosque oui. ce vendredi.
Je voulais souligner, ouais, et
oui.
on aura une édition très spéciale.
Oui.
Puisque nous allons avoir un supplément important dans ce numéro de vendredi,
oui.
puisque la Marseillaise est organisatrice du Grand Prix cycliste mm-hmm. Marseille-La Marseillaise,
ouais.
et partenaire aussi de l'Étoile de Bessèges, qui est une grande course cycliste qui va débuter à la fin du mois pendant une semaine du côté des Cévennes, dans
oui.
les Gards. Et voilà, donc on aura un grand supplément. C'est à la fois évidemment pour les amoureux de la bicyclette et du vélo, mais pour tous, hein, puisque c'est fait partie aussi de notre culture commune. Hein, donc on a un gros journal avec un gros supplément consacré à ce beau sport qui est le cyclisme.
Tout est dit, Françoise.
Oui, tout est dit.
Et bien, quant à nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour évoquer avec vous les titres à la une de la Marseillaise. Merci, Françoise.
Avec grand plaisir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.